L'incendie de l'usine Lubrizol dans la nuit du 25 au 26 septembre dernier a fait ressurgir dans le débat public la question des risques liés aux activités industrielles. Mais cette question ne date pas d'aujourd'hui, loin de là. Dès la fin du XVIIIe siècle, en effet, les premières usines construites en France suscitent l'inquiétude concernant l'environnement et la santé des populations. Je reçois dans un instant l'historien des sciences et des techniques Jean-Baptiste Fressoz, qui étudie cette histoire et la prise de conscience du risque industriel. Et vous pouvez lui poser dès maintenant toutes vos questions au 01 45 24 7000, sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Je ne vous demande pas si vos vacances ont été bonnes. Mais
elles étaient parfaites, vous avez bonne mine Mathieu.
On passera au vert avec vous dans un instant.
Oui, avec la question climatique dans les programmes scolaires, ce n'est pas une mince affaire.
Caroline Gillet, bonjour.
Bonjour.
Le reportage de la semaine, ce sera avec vous pour une série de portraits de jeunes engagés, chacun à leur façon, dans l'environnement et l'écologie un peu partout en Europe.
C'est ça, et on va commencer avec Extinction Rebellion, que j'ai été rencontré à Londres à l'époque où ils bloquaient des ponts là-bas. C'était il y a quelques mois maintenant.
Vos solutions pour la planète, avec aujourd'hui Elodie, une auditrice qui va nous inviter à observer la flore en bas des arbres. Et puis enfin, notre invitée découverte est la journaliste et auteure Gwenaëlle Abolivier, une voix de France Inter que vous avez retrouvée pour un livre qu'elle publie sur Ouessant, où elle a passé plusieurs mois en résidence dans le sémaphore de Lille. Voilà pour le sommaire de cette Terre au Carré, réalisée par Valérie Ayestaraï, avec à la technique Alexis Barois et Nicolas Cazot.
Mathieu Vidard. La Terre au Carré. Sur France Inter.
Bonjour Jean-Baptiste Fressoz.
Bonjour.
Bienvenue à vous, vous êtes historien de l'environnement et auteur d'un livre, L'Apocalypse Joyeuse, une histoire du risque technologique qui était sorti en 2012 au Seuil, on en avait parlé à l'époque, dans La Tête au Carré. Ouvrage d'ailleurs qui est revenu dans l'actualité avec l'incendie de l'usine Lubrizol en septembre, concernant justement la question des risques liés aux activités industrielles. Et vous rappelez justement que cette question n'est pas récente du tout, contrairement à ce qu'on croit, hein.
Oui, en fait, vous avez employé le terme de prise de conscience dans votre édito. D'une certaine manière, l'histoire de l'industrialisation au début du 19e siècle, c'est l'inverse. C'est comment on produit une forme de désinhibition par rapport au risque et à la pollution. Pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, au 18e siècle, l'environnement, c'est une catégorie d'abord médicale. On pense que l'environnement, c'est ça qui explique la santé des populations et même la forme des corps. Mmh. Et à partir de là, on comprend bien que l'industrialisation et son cortège inouï de pollutions nouvelles, bizarres, on pense aux fumées acides, par exemple, va pas se faire dans une sorte d'inconscience béate. Au contraire, les gens sont extraordinairement méfiants face à ces nouvelles usines.
Ouais, donc c'est vraiment le début de l'ère industrielle qui pose les conditions justement d'une relation particulière à l'environnement.
Donc au moment où il y a beaucoup de capitaux qui vont s'investir dans des technologies manifestement polluantes, on est obligé de repenser la question des régulations, la manière dont on va assurer une sorte de coexistence entre les habitants et l'industrie. Pour faire vite, au XVIIIe siècle, c'est la police. La police qui mérite vraiment son nom parce que c'est une institution urbaine. Mmh. Elle gère l'urbain. Et elle gère aussi la propreté en ville, elle gère la qualité de l'air, la qualité des eaux, et donc elle va gérer les pollutions artisanales et aussi le risque industriel. Mmh. Et cette forme de régulation au XVIIIe siècle, elle a un pouvoir énorme sur les artisans parce qu'elle peut interdire à peu près à n'importe quel moment un atelier en ville. Et ça, en fait, ça fait peser une incertitude trop importante sur les capitaux industriels, ce qui fait que à partir du début du 19e siècle, et en particulier en 1810, il y a un texte très important, on va casser cette forme de régulation policière pour la remplacer par une régulation administrative avec laquelle on vit encore de nos jours.
On va en parler évidemment dans un instant, parce que c'est vraiment un tournant justement ce décret-là de 1810. Un mot encore sur ce qui précède, parce que c'est intéressant. Vous évoquez la police donc, qui est en charge de tout cela, mais elle a vraiment la capacité de faire des mesures de la qualité de l'air, par exemple, à l'époque ?
Alors, en fait, ça se fait par témoignage. En gros, c'est les voisins qui se plaignent d'un artisan qui, enfin, je sais pas, fait brûler des choses qui sentent pas bon. Ils vont voir le commissaire. Le commissaire de police est quelqu'un de très accessible. En fait, c'est quelqu'un qui habite dans le quartier, qui connaît bien les habitants. Chaque jour, il doit patrouiller dans son quartier d'exercice. Par exemple, à Paris, il y a 20 quartiers où il y a chaque commissaire habite dans son quartier. Et donc, les voisins vont interpeller le commissaire en lui disant « Venez voir, regardez comme ça sent pas bon, etc. » Et quand il y a une pétition assez importante, c'est assez facile pour les voisins d'obtenir la suppression d'un atelier.
Ouais. Et il verbalise aussi, il y a des sanctions financières.
Il y a des sanctions financières, mais le pire, c'est évidemment l'interdiction d'exercice.
Ouais. Est-ce qu'on peut parler d'un concept d'écologie déjà ? Est-ce que ça existe à cette époque ? Est-ce que le mot même est employé ou pas ?
Le mot d'écologie apparaît dans les années 1860, c'est Ernest Haeckel qui formalise le terme. Par contre, il y a tout plein de mots qui décrivent un petit peu ce qu'on entend maintenant par écologie. Par exemple, au XVIIIe siècle, quelque chose qui est très à la mode, c'est ce qu'on appelle l'économie de la nature. L'économie de la nature, c'est comment la nature est organisée dans un réseau de relations réciproques, de symbiose, on dirait, de nos jours. Et pour les naturalistes du XVIIIe siècle, étudier l'économie naturelle, c'est étudier en fait comment Dieu a organisé la nature. Donc en fait, il y a tout plein de manières de penser l'interaction entre un être vivant et le reste de son environnement. De même, quand je vous disais que la notion d'environnement, c'est une notion médicale, on n'emploie pas le mot environnement, mais dans les traités médicaux, on va employer le terme de circumfusa, c'est toutes les choses qui nous environnent en latin. Donc toutes ces choses qui nous environnent et qui façonnent notre santé et nos corps. Donc même si le mot écologie n'existe pas, il y avait tout plein de catégories qui à l'époque servaient à penser des choses que maintenant on met dans la catégorie écologie.
Alors étonnant comme l'histoire se répète quand même, hein, puisque effectivement au XVIIIe siècle, 1700, à la fin des années 1700 en tous les cas, on voit par exemple à Rouen, ces premières usines aussi qui naissent, et tout près de l'actuelle usine Lubrizol, il y a les premiers problèmes de pollution et des réactions très réticentes de la part de la population et des médecins aussi d'ailleurs de la ville. Hein.
Alors en 1768, il y a une très grosse usine d'azote sulfurique qui est créée par un Anglais qui s'appelle John Holker et il est soutenu à bout de bras par la monarchie. Il est subventionné pour produire de l'acide sulfurique en grande quantité. L'acide sulfurique, c'est vraiment le produit de base d'un nombre de pour tout ce qui est textile, le verre, la savonnerie. On a besoin d'acide sulfurique. Donc si vous voulez, c'est un peu le high-tech de l'époque. Et il arrive à faire ça avec de nouveaux procédés qui brûlent du soufre dans des grands récipients de verre. Et cette usine-là va être critiqué par les voisins, à tel point que le Parlement de Normandie, qui est une institution très importante, un Parlement de province sous l'Ancien Régime, quelque chose qui a beaucoup de pouvoir, va tenter d'interdire cette usine. Et la monarchie, le gouvernement, le Conseil des ministres, supprime même le Parlement de Rouen, c'est la réforme Maupoux, on supprime le Parlement de 1772, et l'usine est maintenue, et même est protégée. John Holker va être anobli, et dans le titre, dans sa lettre de noblesse, il est dit, voilà, il a apporté l'art de la production de l'acide sulfurique en France. Donc c'est vraiment, si vous voulez, un moment
où... C'est la puissance des lobbies, déjà, à l'époque, quasiment, non?
Si vous voulez, mais là, c'est vraiment Trudaine de Montigny, qui est le directeur des manufactures en France, qui crée un lobby pro-industriel et qui encourage au maximum l'industrialisation de la France avec ses procédés innovants.
Voilà, donc ça c'est l'essor finalement de ces premières usines, évidemment à cette époque, et les premières inquiétudes, parce que je crois qu'il y a des pétitions qui circulent déjà et qui prédisent des accidents de grande ampleur quand même.
Alors ce qu'ils prédisent, c'est plutôt des épidémies, la dégénérescence de la population, c'est pas tant des accidents que des problèmes sanitaires, de l'insalubrité à grande échelle. Quoi. Donc moi ce qui me frappe, c'est dans les pétitions du début du 19e siècle, fin 18e, début 19e siècle, on n'arrête pas de mentionner la santé justement. En disant ce qui est en jeu, c'est vraiment l'épidémie, c'est la santé de tout Rouen, etc., avec des docteurs qui sont en fer de lance de cette mobilisation.
Il y a des effets sur l'environnement, justement, liés à ces pollutions d'usines, là, ou pas?
Alors, les effets de la production d'acide sulfurique sur l'environnement, c'est surtout, d'autres produits minéraux, ça endommage les récoltes. Et c'est pour ça que c'est une pollution qui est historiquement importante, parce qu'elle est très visible. Et c'est assez facile d'actionner les tribunaux et de dire, voilà, j'ai eu un dommage, je veux une indemnité. Sur l'environnement immédiat, c'est surtout sur les ouvriers, en fait, que ça a beaucoup d'influence. C'est un peu l'angle aveugle c'est difficile en fait d'avoir des connaissances sur ce qui se passe dans l'usine, mais on sait que sur les ouvriers, c'est effectivement très très nocif.
Alors justement, après cet épisode où la police était en charge de sanctionner, etc., il y a donc ce décret en 1810 qui va naître, donc un texte extrêmement important, qui va naître d'ailleurs à la demande quasiment des industriels eux-mêmes, non?
Exactement. Alors, ce qui va se passer, c'est que sous début du consulat, sous Napoléon, en fait, il y a un ministre de l'Intérieur qui s'appelle Jean-Antoine Chaptal. Et Jean-Antoine Chaptal, pardon, c'est un très grand chimiste, un disciple de Lavoisier, c'est un très grand industriel d'acide aussi et de soude, et c'est aussi un très grand pollueur. Et donc, effectivement, il y a une sorte de conjonction temporelle intéressante à ce moment-là où finalement l'élite administrative se trouve être aussi à la pointe de la chimie industrielle. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il y a un basculement dans les régulations. On va dire finalement que la police fait peser trop de risques, trop d'incertitudes. Résultat, les industriels français ne veulent pas investir, les capitalistes sont trop timorés. Et la seule manière finalement de protéger l'industrie, c'est de mettre au centre l'administration, le système administratif. Et tout le droit administratif qui est nouveau à cette époque, c'est sous Napoléon qu'on va créer le Conseil d'État, qu'on crée la juridiction, la justice administrative. Toute la justice administrative, finalement, c'est elle qui est en charge d'autoriser les usines. Et le point important de ce décret de 1810, c'est que l'industriel doit demander une autorisation au préfet ou au ministre de l'Intérieur quand c'est des choses très polluantes. On pourrait croire que c'est écolo, mais en fait, le résultat est inverse. Parce qu'une fois que vous êtes dûment autorisé, les voisins n'ont plus aucune chance d'obtenir la suppression de votre usine.
Donc ça veut dire qu'on peut polluer comme on veut quasiment?
On peut polluer comme on veut, il y a un seul recours, c'est la justice civile. Mais la justice civile ne peut pas casser un acte administratif, c'est le principe de séparation des pouvoirs. Donc la seule chose que la justice civile peut faire, c'est arbitrer des dommages. Et finalement, c'est à ce moment-là que naît aussi le principe de pollueur-payeur. C'est ça qui est intéressant.
Ouais.
C'est ce qu'on estime être nouveau, cette idée que, voilà, en payant pour la pollution, on va faire des procédés moins polluants. Cette logique-là, elle est déjà dans la régulation de 1810.
Et alors aujourd'hui, justement, ce décret, finalement, il est toujours en vigueur. En tout cas, tout reste basé là-dessus.
Dans les grands principes de l'autorisation administrative, du fait que c'est de l'administration qui a le pouvoir, oui. Dans ces grands principes-là, évidemment, depuis, il y a eu, en 1917, il y a les établissements classés. Ensuite, après l'accident de Seveso en Italie en 1976, il y a un nouveau type de règles qui s'appliquent, etc. Mais je dirais que dans les grands principes, l'autorisation administrative, l'idée de payer pour la pollution, ces grands principes-là de base demeurent.
Ah, justement, Seveso, juillet 1976, on écoute à l'époque un extrait du journal d'Antenne 2 avec la journaliste Hélène Vida.
Près de 1000 ans, un gaz toxique a peut-être tué une jeune femme. À Seveso, le 10 juillet, un accident dans une usine. Pendant quelques jours, les autorités italiennes ne s'inquiètent pas trop. Banal incident de pollution. Puis subitement, hier, la zone est isolée par l'armée et on recommande à la population de ne plus concevoir d'enfants. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de poissons morts dans les rivières. La pollution s'attaque à l'homme directement.
Attention, zone infestée et toute cette zone a été isolée par des clôtures. L'accident s'est produit le 20 juillet dans une usine chimique. La température soudain monte et une cuve de 2000 litres explose, libérant un nuage de trichlorophénol. On reconnaît aujourd'hui que le gaz libéré était toxique, dangereux.
Jean-Baptiste Fressot, cette catastrophe donc est à l'origine, un peu plus tard, en 82, d'une série de directives européennes, justement, afin de prévenir tout risque d'accident industriel.
De ce que je sais de Seveso, en gros, ça a aussi surtout pour fonction de lisser, disons, la réglementation au niveau européen pour éviter une sorte de concurrence par le bas sur les normes de sécurité. Donc ça sert surtout à faire un espace européen relativement unifié sur les normes de la chimie industrielle.
Allez, on se retrouve dans un instant. On en discute également avec les auditeurs de la Terre au Carré qui vous interrogent avec les messages sur les réseaux sociaux pour évoquer donc ensemble ces risques industriels. 01 45 24 7000 également pour le standard.
France Inter. La Terre au carré.
Camille Passauvert, Camille Cronier, aujourd'hui vous nous parlez du Conseil supérieur des programmes chargé par le ministre de l'Éducation de plancher sur la question de l'environnement à l'école.
Oui, une lettre de mission envoyée par Jean-Michel Blanquer au mois de juin et dans laquelle il demande au Conseil, je cite, d'identifier et de renforcer les éléments ayant trait au changement climatique, au développement durable et à la biodiversité dans les programmes d'enseignement de l'école et du collège. Le ministre ne veut pas que les choses soient cantonnées au lycée et donc amorcer la sensibilisation dès le plus jeune âge pour assurer à chaque élève, je cite encore, une base scientifique qui lui permette de comprendre les enjeux et d'agir à l'âge adulte en citoyen responsable. Pour garantir la qualité scientifique de vos propositions, conclut Jean-Michel Blanquer à l'attention des 18 membres du Conseil supérieur des programmes, vous pourrez solliciter les meilleurs experts sur ces questions qui exigent objectivité, rigueur et précision scientifique. Voilà, mission à accomplir avant la fin du mois, la fin novembre. Et si je vous plante le décor avec tous ces extraits, c'est parce que la liste des 23 meilleurs experts, donc auditionnés en septembre et octobre, en a fait tiquer quelques-uns, et c'est peu de le dire. Il y a parmi eux François Gervais, physicien, qui signait l'an dernier un livre intitulé « L'urgence climatique est un leurre », et Vincent Courtillot, géophysicien, signataire, lui, il y a un mois, d'une lettre aux Nations Unies titrée « Il n'y a pas d'urgence climatique » avec 500 autres, dont François Gervais également. Bref, deux climato-sceptiques notoires, des négateurs, dit la communauté scientifique. Et cette confusion des genres a d'abord interpellé Valérie Masson-Delmotte, l'une des coprésidentes du GIEC, auditionnée elle aussi.
Finalement, ce qui est important, c'est le choix des auditions et le respect de la déontologie scientifique. Et c'est justement tout un enjeu important d'arriver à séparer ce que c'est la production de connaissances rigoureuse de ce que c'est l'expression d'une opinion. Et j'ai vraiment l'impression que le Conseil supérieur des programmes a fait cette confusion, ce qui est très préoccupant.
Alors le CSP, justement, il a d'abord fait un communiqué le 18 octobre face à la polémique naissante. Il y a eu un article dans le Canard enchaîné. Et que peut-on lire, Mathieu? Je vous laisse faire.
Alors il s'agit pour le Conseil d'éclairer les objets concernés et d'enrichir les perspectives de son étude.
J'ai donc voulu avoir des précisions. J'ai donc sollicité la présidente du Conseil supérieur des programmes. Elle s'appelle Swad Ayada. Je n'ai jamais pu la voir ni la voir au téléphone depuis 2 semaines, mais elle m'a envoyé 3 longs messages. Swad Ayada écrit que la méthode de travail du Conseil ne regarde que le Conseil et insiste sur le pluralisme des analyses et points de vue en expliquant que les auditions doivent refléter ce pluralisme, signe de la vitalité et de l'esprit scientifique. Je cite, Mathieu, lisez encore.
Le Conseil s'efforce de comprendre les arguments scientifiques des uns et des autres, sans parti pris et sans préjugés. Il estime qu'il doit s'instruire auprès de tous ceux qui ont travaillé sur ces questions, aussi bien ceux qui n'étudient que la part de l'activité humaine dans le réchauffement climatique, que ceux dont les recherches portent sur la part dite naturelle du réchauffement climatique.
Alors, Souad Ayada parle également de procès d'intention et même de tentative d'intimidation et termine « Cela me rend perplexe ». Vous allez me dire ambiance, mais les scientifiques ne voulaient pas du tout que ça tourne au vinaigre. Laurent Bopp, par exemple, chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, auditionné par le Conseil supérieur des programmes lui aussi.
Je ne veux pas faire de procès au CSP avant que les conclusions de ces auditions soient sorties. Et je ne veux pas non plus faire des recommandations sur la façon dont le CSP fonctionne. C'est son rôle et il peut s'entourer des experts qu'il a envie d'auditionner pour faire avancer ses dossiers. Donc je crois qu'il faut attendre fin novembre.
Mais qu'est-ce qui vous gêne
alors ? On a peur que ces opinions non scientifiques soient mises au même niveau que le consensus scientifique. Et on voit bien que finalement les climato-sceptiques, ils réussissent à infiltrer, à présenter leurs idées.
Alors qu'il n'y a pas de débat, hein, je le rappelle, sur l'origine du réchauffement climatique, un peu comme le fait que la Terre est ronde et pas plate. C'est la science. Écoutez Éric Guilliardi, climatologue au CNRS.
Nous scientifiques, nous construisons de la connaissance et nous apportons les éléments qui sont nécessaires au débat public. Et la construction des programmes est un débat public. Ce n'est pas neutre de choisir de faire un programme. Et ça, on n'a pas notre voix plus que celle de citoyen pour donner notre avis. Par contre, les éléments scientifiques qui vont être nécessaires à l'élaboration des programmes, nous sommes ceux qui pouvons les apporter.
Car l'enjeu est extrêmement important.
L'objectif, c'est qu'on ait des programmes pour nos enfants qui soient les meilleurs possibles. Donc il ne s'agit pas de polémiquer ou pas, il s'agit d'avancer vers la réalisation de cet objectif qui est commun entre le CSP et les scientifiques du climat.
Avec des programmes scolaires qui n'enferment pas les questions climatiques dans les seules sciences et vie de la Terre, mais leur donnent une dimension globale, systémique et donc transversale. Le ministère de l'Éducation refuse tout commentaire avant d'avoir les propositions du CSP. En tout cas, les scientifiques espèrent que Jean-Michel Blanquer ne renoncera pas, surtout face à l'ampleur de la tâche. Ce serait ça, pour eux, le vrai scénario du pire.
Merci beaucoup Camille Cronier. Cette chronique, évidemment, est à réécouter sur franceinter.fr.
Jean-Baptiste Fressoz, est-ce que la question du climat peut toucher d'autres matières et doit toucher d'autres matière que les sciences seulement.
Bien sûr, mais d'ailleurs la recherche en histoire, par exemple, ce que je connais bien, est complètement maintenant partie prenante de cette question climatique. Par exemple, sur la question de l'adaptation, on a des bibliothèques entières sur l'effet du petit âge glaciaire à l'époque moderne sur les sociétés humaines. Et les informations sont plutôt, enfin les résultats sont plutôt effrayants, parce que le petit âge glaciaire, on estime que c'est entre moins 0,4 et moins 1 degré de refroidissement de la température globale sur plusieurs siècles, c'est quelque chose de très progressif. Les climatologues nous disent on va avoir plus 3, plus 4 degrés dans quelques décennies. Donc on a une amplitude et une brutalité du changement qui, par exemple, historiquement, n'a pas d'analogue. En histoire aussi, on peut s'intéresser à l'évolution des techniques, à l'histoire des techniques, ce qui est un peu mon domaine de prédilection. Et quand on entend parler de transition énergétique, comme si c'était simplement aller mettre quelques éoliennes et quelques panneaux solaires, on se rend compte qu'une culture historique sur ce qui se passe, par exemple, pendant la révolution industrielle, pendant l'industrialisation, c'est important, parce que dans ces exemples passés-là, ce n'est pas des transitions qu'on a, c'est des additions. Le 19e siècle, c'est le grand siècle du bois. Le charbon ne remplace pas le bois, ne fait que s'additionner à un mix énergétique qui reste fondé essentiellement sur le bois. Donc voilà, je pense que c'est important d'avoir une culture historique assez précise sur la constitution matérielle de nos sociétés.
Et c'est ce qui se passe exactement avec la pétrochimie en ce moment. C'est ce que vous expliquez autour justement des risques liés aux activités industrielles, le sujet qui nous réunit cet après-midi. Déjà des questions nombreuses pour vous, Jean-Baptiste Fressoz. On se retrouve dans un instant.
Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ce n'est pas un drame, c'est je ne fais plus la fête. Ou si sereine, ou fais-tu juste la guerre. La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse. Vivre me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante. Si je rate, je recommence. Quand je suis triste, je chante. Ne jamais tout donner de moi. Dans ce monde, c'est le diable qui est roi. Elles me disent que j'ai la poisse. La gabarre devient loup sa peur.
Seul, seul.
Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na.
Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène, laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne. Ma blessure saigne et le sang monte à la tête. Je reste la même et ce quoi qu'il advienne. Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. La peau n'est pas noire, elle est couleur ébène. Où es-tu sereine, où fais-tu juste la guerre. Tu n'es pas parfaite, ton erreur reste humaine.
seul, seul, seul. Je veux être seul, seul. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na 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 na. Au plus j'avance, au plus je les devance. Tant pis si tu ne suis pas la cadence. Je ne sais même plus sur quel pied je danse. Encore un acte trop frais, ça dérange. La mélodie me berce et me ronge. Chaque mot me perce et dont je plonge dans les profondeurs de mes songes. Je nage, me noie dans la pénombre. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na 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 na. Seul, seul, seul. Je veux être seul.
Loose and the Yakuza, c'était Dilemme.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Jean-Baptiste Fressoz, historien des sciences et des techniques, auteur également d'un livre « L'Apocalypse joyeuse », une histoire du risque technologique qui était sorti en 2012 au Seuil et qui évidemment nous intéresse dans le sillage de l'actualité de l'usine Lubrizol et donc de la question des risques industriels. Pour en parler avec vous les auditeurs de la Terre au Carré, c'est Nadine qui est en ligne pour commencer. Bonjour Nadine.
Bonjour.
Bienvenue à vous.
Bonjour.
Et on vous écoute.
Alors, quand vous dites, enfin votre interlocuteur dit la culture historique de notre société, moi j'avais une réflexion dans cette culture historique. Il y a quand même la venue du fait que les capitaux sont avant les lois. Et j'ai été très étonnée quand j'ai suivi l'affaire de Rouen, que l'étonnement du gouvernement, les prises de parole sur toutes les chaînes, soit pour calmer les inquiétudes et surtout que les Rouennais et nous autres, nous ne croyons pas du tout la parole officielle. Donc ma question était, est-ce qu'en 2019, on peut croire qu'au-delà des capitaux, avant les capitaux, il y ait encore un organisme qui puisse nous assurer qu'il y a une vraie sécurité, qu'il n'y a pas de danger, même si on nous l'a affirmé, pour ce cycle-là et même pour les autres. Voilà.
Alors, Jean-Baptiste Fressoz, ça c'est passionnant parce que vous montrez qu'il y a une espèce de constante historique justement à minimiser les risques. Hein.
Mais je pense que la question de Nadine, c'est la question de l'autorité, des autorités indépendantes en fait. Et c'est vrai que dans le cas des établissements classés, il n'y a pas d'autorité indépendante. C'est-à-dire que c'est en fait le système administratif, la préfecture, la DREAL qui s'occupe de ça. Et de fait, c'est vrai que c'est ces institutions-là qui autorisent les usines et donc elles se retrouvent forcément un peu partie liée en fait avec les industriels. C'est ça, c'est pour ça que pour le nucléaire, étant donné l'ampleur des risques, on avait décidé de faire une autorité, l'ASN, une autorité de sûreté nucléaire vraiment indépendante. Donc je pense que c'est une question tout à fait légitime, effectivement, comment on peut avoir confiance dans des institutions qui sont à la fois, finalement, ceux qui autorisent et ceux qui réglementent, et ensuite ceux qui peuvent éventuellement contrôler, punir, etc. Donc c'est vraiment une question, effectivement, majeure. Là c'est le problème des contre-pouvoirs, et c'est pour ça que la justice, historiquement, a eu un rôle majeur dans l'histoire des sécurisations de l'industrie. C'est parce qu'il y avait des procès, et que ça finissait par coûter cher, des indemnités, etc., qu'il y a des efforts de dépollution, sinon il n'y en a pas. En fait.
Mais là, quelques jours après l'incendie de l'usine Lubrizol, on a entendu le préfet, on a entendu la ministre de l'écologie dire l'air n'est pas pollué, il y avait la ministre de la Santé derrière qui a dit c'est pollué, etc. Mais le message des jours juste après, c'était vraiment presque circulé, il n'y a rien à voir. Est-ce que ça a toujours été le cas, quel que soit le gouvernement ou les dirigeants du pays?
À un moment, il y a Édouard Philippe qui a dit alors ça c'est incommode, mais ce n'est pas dangereux. Alors, c'est marrant parce que c'est vraiment le topos du 19e siècle.
Et c'est exactement
même,
les termes.
C'est exactement ces termes-là. C'est nocif, peut-être il n'avait pas employé.
C'est pas insalubre, nocif. C'est pas insalubre.
Voilà. Et ça, c'est vraiment le topos du 19e siècle où tout le système administratif et ce qu'on appelle les hygiénistes, les conseils de salubrité et d'hygiène, expliquent que ces usines sentent mauvais, mais ne sont pas insalubres. Et ce partage de l'incommodité et de l'insalubrité, c'est vraiment la frontière hyper importante pour l'expertise. Il y a tout un travail d'expertise pour montrer, par exemple, que ce qui sent mauvais, effectivement, ça ne tue pas. Ce qui compte, c'est la richesse de la population, les capacités financières de tout un chacun, etc. Donc il y a tout un travail de légitimation de l'industrie en disant, voilà, ça sent mauvais, c'est incommode, mais ce n'est pas insalubre. Et on retrouve ça. Et d'ailleurs, on reparlait de Saint-Sever. C'est à ce moment-là que ça commence, en fait. C'est-à-dire, c'est vraiment en 1776 que cet argument commence à émerger dans l'espace public.
Audrey, sur Twitter, nous dit, est-ce qu'on ne peut pas dire finalement que ce ne sont jamais les pollueurs qui payent dans le cas de la centrale TEPCO à Fukushima? Ce sont les Japonais, par exemple, qui ont payé.
Alors, pour le cas du nucléaire, c'est un peu différent parce que les dommages sont tels qu'aucune entreprise ne peut. Je crois que le Fukushima, ça a coûté plus de 800 milliards de dollars. Je pense pas que TEPCO ait les reins assez solides pour payer 800 milliards de dollars d'indemnité. Donc forcément, et c'est le cas aussi en France pour le nucléaire. EDF est responsable à hauteur de 100 millions d'euros et au-delà, en fait, c'est l'État français qui est. En fait, le nucléaire n'est pas assurable. C'est ça le vrai sujet. Donc ça veut dire que ça fait peser un risque sur la dette souveraine très important en cas d'accident.
Ce que vous montrez, Jean-Baptiste Fressoz, finalement, c'est que de tout temps et encore aujourd'hui, c'est toujours ce processus de normalisation des risques, finalement, qui est en jeu.
Alors, effectivement, disons que l'idée de normes techniques de sécurité, elle émerge un peu, juste après le décret de 1810, dans les années 1820. De la même manière, c'est pour essayer de concilier l'industrialisation en ville. En gros, on se dit, il faut mettre des machines à vapeur en ville. Et pour faire ça, les voisins sont évidemment vent debout contre ces machines à vapeur, parce que c'est dangereux, ça a tendance à exploser. Et donc la solution, ça va dire, on va demander à l'Académie des sciences de faire une norme technique de sécurité, et alors il n'y aura absolument aucun risque. Et donc ça, c'est une façon assez française, on va dire, de réguler. Et la norme technique de sécurité, elle s'impose en France, mais en Angleterre, par exemple, c'est un tout autre processus. C'est plus des assurances, des organismes qui s'occupent de maintenance des machines à vapeur et des dispositifs industriels qui prospèrent. Mais c'est vrai que cette focalisation sur la norme est quelque chose d'assez français. Après, évidemment, ça s'est largement complexifié au cours du 19e et du 20e siècle.
Ouais, ce que montrait bien justement Nadine, là, notre auditrice, c'est toujours ce décalage finalement entre le discours des autorités et la perception du public et des riverains en particulier qui sont les premiers touchés.
C'est-à-dire la communication du gouvernement était particulièrement maladroite. C'est-à-dire que
on le dit à chaque fois, c'est quand, ça qui non, est quand non, même non, extraordinaire.
C'est
non, mais
oui, mais
on ne retire aucune leçon de rien.
Bien sûr, mais ça revient, on retombe sur ce que je disais au départ. C'est-à-dire que vous avez en fait les personnes qui sont l'administration qui est en charge d'autoriser, qui se retrouvent à gérer la conséquence en termes de communication de la catastrophe. Donc forcément, ils sont pris à rebrousse-poil, donc ils sont obligés de tenir ce discours finalement. Et donc c'est tout à fait normal à la limite qu'ils disent ça. C'est quasiment ça fait partie de leur job.
Derrière justement ce débat sur la maîtrise des risques, quels sont en réalité les enjeux qui se cachent? On parlait tout à l'heure justement de la question de la pétrochimie en France, avec évidemment aussi la décarbonisation à l'horizon 2050.
Moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, le débat public s'est focalisé sur la question des normes, est-ce qu'elles avaient été respectées ou pas. On pourrait dire, étant donné la masse énorme de pétrole qu'on consomme et d'essence qu'on consomme chaque année, 10 milliards de litres d'essence par an quand même en France, le système de circulation de ce fluide hyper inflammable et explosif est quand même très sûr finalement. Ouais. Il y a assez peu d'accidents. Par contre, quand il y a un incendie, effectivement, c'est des telles quantités que ça pollue massivement des territoires entiers. Donc, on a évidemment ce problème-là. Mais il me semble que le vrai enjeu, et ce qu'on voudrait entendre de la part du gouvernement, c'est pas de dire non, mais c'est pas vraiment dangereux, c'est pollué, on peut être grossièrement rassuré, on peut se laver les mains et tout ira bien, le type de discours qu'on a entendu juste après la catastrophe. C'est, en fait, à moyen terme, il faut se débarrasser des usines type Lubrizol. Pourquoi ? Parce que Lubrizol, au départ, il fabrique des lubrifiants pour moteurs. Et donc la question, c'est qu'en 2040, normalement, on doit avoir décarboné, on ne doit plus avoir de moteur thermique. Donc il faudrait nous expliquer comment, là, dans 20 ans, on va démanteler l'industrie pétrochimique en France, qui n'est pas une mince affaire.
Donc c'est vraiment la question de la fin de cette industrie.
Il me semble que la vraie question derrière Lubrizol, oui, c'est la question de l'automobile. Ce n'est pas du tout la question des normes de sécurité, qu'on pourra toujours faire mieux, on pourra toujours mettre plus d'inspecteurs, etc. Mais ça me semble être vraiment le petit bout de la lorgnette.
Donc le directeur de Lubrizol, qui lui veut rouvrir l'usine dès que possible, il se met un peu le doigt dans l'œil.
Si, mais je ne sais pas s'il se met le doigt dans l'œil, c'est ça qui est très triste. Le problème, c'est si on était vraiment sérieux sur les engagements climatiques de la France et l'accord de Paris, effectivement, Lubrizol n'a plus vraiment de raison d'être à très court terme.
Merci Jean-Baptiste Fressoz. L'Apocalypse joyeuse, une histoire du risque technologique, c'est donc publié au Seuil et c'est sorti en 2012 et évidemment toujours disponible. Juste après les informations, le feuilleton de la semaine sera proposé par une voix de France Inter que vous connaissez bien, Caroline Gillet, avec des portraits de jeunes militants écologistes européens.
France Inter. La Terre au carré.
Et au menu de cette deuxième heure, vos solutions pour la planète dans un instant avec Élodie, une auditrice qui va nous inviter à observer la flore en bas des arbres. Et puis notre invitée découverte est la journaliste et auteure Gwenaëlle Abolivier pour un livre sur Ouessant où elle a passé plusieurs mois dans le sémaphore de Lille. Caroline Gillet, les auditeurs de France Inter vous entendent tous les samedis à 22h avec Foule Continentale et toute cette semaine, pour la Terre au carré, vous nous proposez donc des portraits de jeunes engagés pour l'écologie et l'environnement. Il y a quelques mois, vous étiez à Londres au tout début du mouvement Extinction Rébellion dont on a beaucoup parlé récemment.
Tout à fait, oui. Et j'avais rencontré deux frères, Rémi et Denis, 24 et 27 ans, qui étaient arrivés là-bas, dans la capitale britannique, 6 ans plus tôt, avec le rêve de faire de la musique. J'avais adoré parce que je leur avais posé la question, ils voulaient devenir les Beatles. Et vous allez l'entendre, ils se sont retrouvés un peu par hasard dans les luttes climatiques. Et le jour où je les ai rencontrés, ils sont donc dans les bureaux du mouvement Extinction Rébellion, dans le centre de la capitale.
C'est le stock, c'est tout ce qui reste des actions, principalement du matériel de camping. Ouais. Enfin, c'était une semaine où les gens ils ont campé dehors. Ils ont dormi sur le pont, dans des duvets. Donc,
Sur du carton des fois.
Ouais, sur du carton parfois.
Donc il y a quoi? Il y a des grands sacs poubelles avec des vêtements.
Avec des duvets, des couvertures, des coussins.
Si Rémi et Denis semblent être des militants écolo-nés, s'ils sont devenus des habitués du mouvement radical Extinction Rébellion, leur engagement est en fait assez récent. Il a commencé parce qu'ils étaient fauchés. Un jour, alors qu'ils ne pouvaient plus payer de loyer, ils ont entendu parler d'un endroit où ils pouvaient loger gratuitement.
Et pour se préparer, on a acheté un van, l'ancienne bétaillère qu'on avait réaménagé en tiny house.
En mini-maison, donc.
On a fait bonne impression en arrivant.
Denis et Rémi se retrouvent à Grow Heathrow, un éco-village créé pour résister à l'expansion de l'aéroport d'Heathrow et à la destruction de villages alentours.
C'est comme une petite ZAD, en fait, dans le campement, à l'extérieur, qu'on avait construit nous-mêmes aussi, et des toilettes compost, enfin, vraiment l'éco-village, quoi. C'est là-bas où on a commencé vraiment à se faire sensibiliser à l'écologie, parce qu'avant ça, on n'était pas spécialement dans le mouvement, quoi. Et toutes les rencontres qu'on a fait là-bas, ça a transformé nos vies, quoi. Donc tu vis plus juste pour toi, en fait, tu vis pour la communauté. Et du coup, ça devient plus facile après aussi de te sentir concerné par les problèmes comme le changement climatique et de vouloir agir.
C'est là que Denis a rencontré son amoureuse Annie. Elle s'occupait d'un mouvement qui luttait contre la pollution sur les routes et qui s'appelait Stop Killing Londoners. Arrêter de tuer les Londoniens.
Et après, quand Extinction Rébellion, ça a commencé, ils l'ont contacté parce qu'ils se connaissaient, c'était des amis. Ils ont dit, ouais, on a besoin d'avoir le plus de monde possible, on veut faire un truc énorme, quoi.
Eux ont rejoint Annie et le mouvement le jour de la déclaration de rébellion prononcée à Londres devant le Parlement le 31 octobre 2018. Et ce jour-là, c'est Greta Thunberg, la jeune militante suédoise, qui avait prononcé le début de la rébellion.
It is now time for civil disobedience.
It is now time for civil disobedience.
It is time to rebel.
It is time to rebel.
Denis et Rémi rejoignent donc le mouvement. Et puis, il y a quelques semaines, ils sont contactés pour participer à la plus grosse action à ce jour.
C'est pareil, c'est Annie qui m'a envoyé un message sur Facebook. Elle m'a dit, oh, regarde, Denis, cet événement, il y a quelqu'un d'Extinction Rébellion qui cherche des personnes qui savent bien bricoler pour construire une rampe de skateboard. Et nous, vu qu'on fait du skateboard et qu'en plus, on a vachement bricolé dans l'éco-village où on était pendant 3 ans, et ben, on a fait, bah, allez, on saute sur l'occasion. Et on a rencontré cette personne qui était donc Will. Et il nous a dit ouais, qu'il voulait mettre une rampe de skateboard au milieu du pont de Waterloo. Et donc, c'est une idée assez folle, mais assez brillante à la fois, quoi. Donc, nous, on était dans un van avec la rampe de skate qui était construite à l'arrière du van. Et donc là, on est arrivé, on s'est garé au milieu du pont, on a ouvert l'arrière, on a descendu tout. Et j'étais impressionné parce qu'en 15 minutes, 20 minutes, le pont était totalement rempli d'arbres. Il y avait le camion qui avait ouvert son côté avec la scène, le système son, et nous, on était en train de remettre la rampe de skate en place. Maintenant, tous les trois, on a le projet de faire un éco-village en France quand on revient de Londres.
Tous les trois, c'est eux et leur petite sœur qui a 20 ans et qui vit toujours à Lyon, près de leurs parents.
Un éco-village bien ancré avec un système d'école, etc., quoi.
Ce serait où alors ça ?
Et bien ça, c'est le plus dur de trouver. Avec le changement climatique et les problèmes qui restent d'arriver, on ne voudrait pas s'installer quelque part et que ça brûle.
Mais donc c'est comme ça que tu vois l'avenir ou...
Le risque principal, ce qui m'effraie le plus avec le changement climatique, c'est un manque de nourriture. C'est-à-dire que pour l'instant, la nourriture, c'est très centralisé, c'est très de la monoculture. Et ça, c'est pas prêt pour recevoir des changements trop brusques dans les saisons, quoi.
Ça, vous y pensez beaucoup? Est-ce que ça vous réveille la nuit? Est-ce que...
C'est super stressant, ouais. Bon, après, voilà, nous, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individuel si on a espoir de changer les choses, rejoindre Extinction Rebellion, quoi. Et essayer de faire que tout le monde soit au courant de ce qui risque de se produire et que tout le monde commence à, au lieu de mettre du goudron et des pavés devant leur maison, mettre des légumes et des buissons, quoi.
Alors depuis le tournage de ce reportage, Caroline, Extinction Rébellion a multiplié les événements et c'est à Paris qu'a eu lieu leur dernière action en date.
Oui, c'était en octobre dernier, vous en rappelez peut-être, ils annoncent déjà qu'ils vont organiser d'autres manifestations, toujours pacifistes, dans les mois à venir.
Allez, on poursuit ces portraits demain en votre compagnie. Merci beaucoup Caroline Gillet, à demain.
Merci.
France Inter, la Terre au carré, vos solutions pour la planète.
Élodie, vous êtes en ligne avec nous de Montpellier et je vous souhaite la bienvenue et je vous dis même bonjour.
Merci, bonjour à tous.
Vous allez bien ?
Très bien, merci.
On va parler d'un sujet qu'on aime beaucoup dans la Terre au carré, Élodie, c'est celui qui concerne les sciences participatives, puisque vous êtes coordinatrice des programmes participatifs pour Télab Botanica, et vous allez nous inviter justement à recenser la flore qui se trouve au pied des arbres grâce à un nouveau programme. Je crois même que vous rentrez de Guyane, vous avez pas mal discuté autour des sciences participatives, c'est ça, hein ?
Oui, exactement. Alors, j'ai participé aux rencontres du LABEC SEBA, qui est le centre d'études de la biodiversité amazonienne et qui rassemble des scientifiques de différents laboratoires, du CNRS, de l'IRD, mais aussi des organismes territoriaux qui travaillent sur la biodiversité en Guyane française. Et donc, Télab Botanica a été invitée pour présenter notre expérience sur les sciences participatives, les outils collaboratifs et leur intérêt.
Alors...
Donc, il y a de belles de travail.
Ouais. Alors justement, quel est le programme là, que vous avez lancé en mars dernier qui s'appelle Streets autour de la biodiversité urbaine?
Alors c'est un tout nouveau programme de sciences participatives que l'on a lancé donc en mars dernier et qui propose aux citoyens d'observer la flore au pied des arbres en ville. C'est un programme autour de la biodiversité urbaine et en quelque sorte c'est le petit frère de Sauvage de Maroche.
C'était déjà le même principe à peu près, c'est ça?
Alors oui, donc Sauvage de ma rue invite à recenser la flore urbaine de manière générale, donc en faisant l'inventaire floristique d'un trottoir. Street, lui, se focalise sur la flore des pieds d'arbre, donc ce petit rayon de terre plus ou moins étroit qui fait l'interface entre les trottoirs et le tronc des arbres.
Et Élodie, qu'est-ce qu'on trouve au pied des arbres, à part des crottes de chiens, si je puis me permettre? Mais c'est vrai,
vraiment.
Quoi, c'est vrai.
Alors le pied des arbres offre un espace pour la biodiversité. Donc, on retrouve de nombreuses espèces. Donc, pour les plus connues, on trouve des pissenlits, des sénessants, des plantains. Et ces espèces favorisent aussi une autre biodiversité. Donc, des insectes, des pollinisateurs, etc. C'est toute une biodiversité qu'on en a au pied des arbres en ville.
Mais bon. C'est pareil, quelle que soit la ville, quel que soit le lieu, où ça peut différencier quand même qu'on soit en plein Paris, en plein Toulouse ou en pleine campagne?
Alors, il peut y avoir des différences, en effet, selon les villes. Au niveau de la bétonisation des villes, au niveau de l'espace que l'on laisse, justement, à cette flore. Donc, ça peut varier d'une ville à l'autre, en effet.
Et pourquoi les scientifiques s'intéressent à ça, exactement, alors, Élodie?
Alors là, nous, on travaille, justement, avec la chercheuse référente de ces deux programmes de sciences participatives, Nathalie Machon, qui travaille sur la biodiversité urbaine au laboratoire FESCO du Muséum National d'Histoire Naturelle. Et donc, son objectif est de savoir comment la flore utilise les pieds d'arbre en ville pour se disperser d'un pied d'arbre à un autre. Voilà, c'est tout ce travail auquel on essaye de répondre avec Street.
Alors donc, vous faites appel à tous ceux qui ont envie d'aller observer, comme par exemple Camille,
moi,
qui se passionne pour le pied des arbres. Alors ça consiste en quoi, puisque c'est de la science participative? Tout le monde peut vraiment aller observer, rapporter des données?
Exactement. En fait, ce programme, il est ouvert à tous. Aux habitants, aux passionnés de botanique, aux curieux, aux enseignants, en fait à tous ceux qui souhaitent recenser la flore des pieds d'arbre de leur rue. Donc l'idéal, c'est de pouvoir faire le suivi chaque année pour que l'on puisse ensuite connaître l'évolution de cette flore. Donc choisissez de préférence un alignement de votre ville, comme ça vous pourrez y retourner l'année prochaine.
Et comment on fait, Élodie? On prend en photo? Parce que pareil, si on n'y connaît rien, moi je ne vais pas savoir qu'est-ce que c'est cette toute petite plante au pied de l'arbre, donc il faut vous envoyer la photo?
Alors, tout à fait, on a différents outils justement pour accompagner en fonction du niveau de botanique, du niveau justement de connaissance de chacun. Donc pour ça, on a vraiment différents outils. Sur le site de Télab Botanica, donc www.télab-botanica.org, on retrouve différents outils. donc le protocole du projet, la fiche terrain, l'outil de saisie en ligne, et on a aussi un guide à disposition des observateurs qui s'appelle le guide des plantes sauvages des îles de France et qui propose de reconnaître plus de 240 espèces. Donc c'est toujours pratique, c'est un guide qui est très apprécié car il nous apprend à identifier les plantes et aussi vous pouvez y découvrir les usages de ces plantes, leurs spécificités. Et si jamais le guide vous n'avez pas réussi à identifier une plante, comme vous l'avez dit, vous pouvez la prendre en photo et ensuite, sur l'outil de saisie en ligne, si vous n'avez pas su reconnaître l'espèce en question, c'est pas grave, vous transmettez la photo et derrière, les membres de Tela Botanica pourront vous aider à identifier cette plante.
Bon, et est-ce que l'abandon des produits phytosanitaires, ça bouleverse justement toute la botanique urbaine là ? Est-ce qu'on observe déjà des gros changements ?
Alors justement, oui, l'abandon des herbicides chimiques dans les espaces publics, on a plus de zones végétalisées, une végétation plus haute et on a de plus en plus d'observations. Donc la flore peut s'épanouir de mieux en mieux sur des zones qui auparavant étaient un peu négligées. Voilà, donc on n'a pas encore vraiment de chiffres ou d'analyses scientifiques car il faut du temps pour étudier ces différences, mais c'est justement l'objet de ce programme.
Eh bien c'est formidable. Ah oui, Élodie, vous pouvez conclure.
Je voulais vous dire justement qu'il y avait certaines communes qui, à leur échelle, ont pu justement faire des études. Donc, par exemple, à La Roche-sur-Yon, c'est tout récent, on a appris qu'il y a des étudiants d'un IUT qui travaillent sur justement l'évolution de la biodiversité grâce aux données de sauvages de Maru. Donc, c'est un grand plus. Les programmes de sciences participatives, ils permettent aussi aux territoires de faire des études comparatives grâce à nos outils libres et notamment l'outil d'export des données.
Bon, ben pour tous ceux qui souhaitent participer, c'est tela-botanica.org. Les coordonnées, évidemment, sont en lien sur La Terre au Carré. Élodie, merci beaucoup d'être passée par chez nous pour nous en parler. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Merci.
À bientôt. Dans un instant, nous allons sur une île où il n'y a pas beaucoup d'arbres, justement, en raison du vent. C'est ce que va nous confirmer Gwenaëlle Bolivier dans un instant. Il publie Tu m'avais dit Ouessant. Elle avait fait une expérience de 3 mois dans le sémaphore de Lille. On en parle dans un instant.
Please.
to the Surf, c'était Falls à l'instant.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Bonjour Gwenaëlle Bolivier.
Bonjour Mathieu.
Très heureux de vous retrouver au micro de France Inter qui a été le vôtre pendant de très très nombreuses années aux côtés de Claude Villers pour lequel vous avez parcouru le monde entier. Tout le monde vous enviait dans cette maison. Vous étiez tout le temps en voyage.
C'est vrai, c'était énorme.
Plus de 10 ans, c'est ça?
Oui, plus de 10 ans. Puis la décennie qui a suivi aussi avec donc des émissions que j'ai pu produire sur le transsibérien, sur le canadien, pour Interception beaucoup aussi.
Et là, vous publiez donc ce livre, Tu m'avais dit où est sans aux éditions Le mot et le reste. C'est un livre qui raconte les 3 mois que vous avez passé donc dans le sémaphore de l'île d'Ouessant. Dans quel contexte est-ce que vous êtes arrivé dans ce sémaphore justement pour cette expérience absolument inouïe?
Absolument incroyable, au bout de l'île, dans le sémaphore, donc un sémaphore aujourd'hui désarmé, avant propriété de la navale, et aujourd'hui c'est un lieu d'écriture, un lieu de création, c'est un lieu transformé finalement en résidence d'auteur. Donc après mes années de radio, j'ai voulu comme ça glisser vers le territoire littéraire, tout en puisant finalement mon écriture, elle puise aussi ses racines dans l'exercice radiophonique. Je suis héritière de ça me plaît toujours autant d'ailleurs.
Et donc l'idée c'était d'aller passer 3 mois seul dans ce sémaphore, avec ce balcon sur la mer agitée, c'est vraiment ça. Au bout de l'île d'Ouessant, c'est probablement d'ailleurs l'endroit habité le plus à l'ouest.
Tout à fait. Après ça, c'est l'océan et c'est un peu la dernière escale avant l'Amérique en fait. Donc l'expérience, c'est ça. C'est une expérience aussi de solitude, d'immersion, d'intériorité, pour laisser monter les mots, laisser monter l'inspiration. Donc ce récit, c'est ça. Plusieurs niveaux comme ça d'écriture, avec une écriture peut-être plus intérieure. Et puis évidemment aussi ce récit au contact des hommes et des femmes sur Ouessant, puisque c'est ça aussi toujours, l'intérêt, c'est d'aller rencontrer, de prendre le temps. Et tout un hiver, puisque c'est tout un hiver, dans le vent, dans les tempêtes, tout un hiver pour aller évidemment écouter, prendre le temps avec les Iliens.
Alors justement la tempête, on va l'entendre, puisque c'est vous qui l'avez enregistré. Donc ça, c'est votre quotidien, finalement, au bord de l'océan.
Surtout quand ça souffle, tout à fait. Ouais. Les premières tempêtes, les premiers coups de vent, c'était dès le 1er octobre, il y avait des coups de vent, des rafales, des impressions incroyables. Là, on entend comme un petit peu les sabots de chevaux qui pourraient comme
c'est
ça, des ruades.
C'est dans le sémaphore, là, ce qu'on
entend. Là, c'est en fait peut-être la pièce un petit peu au-dessus de la chambre de veille, ce fameux balcon, cette bulle océane comme ça. Donc là, c'est les haubans, dans le mât au-dessus du sémaphore.
Et est-ce que vous pourriez nous décrire à quoi ça ressemble à la fois l'intérieur du sémaphore et surtout ce que vous voyez quand vous êtes dedans?
Oui, alors le sémaphore, c'est plusieurs étages en fait. Ça peut avoir une allure un petit peu administrative comme ça sur plusieurs étages avec un escalier qui monte. Et surtout le sémaphore, enfin la chambre de veille, là où je vais travailler la plupart du temps, c'est en fin de compte une grande verrière ouverte à 180 degrés sur l'océan, sur la mer, où vont transiter parfois des bateaux de pêche, parfois des plaisanciers, beaucoup plus loin le rail d'Ouessant, donc faut imaginer là tous ces porte-containers, tous ces cargos qui remontent et descendent vers les territoires beaucoup plus septentrionaux.
Et vous dites à quel point le lieu même, cet arc de cercle qu'est justement cette chambre de veille, ça a été un choc pour vous d'y entrer déjà.
C'est une déflagration de lumière lorsqu'on y entre en octobre, on est juste complètement scotché par l'endroit. D'ailleurs, je me suis dit qu'à un moment donné, j'aurais pu ne plus la quitter, rester là, être en repos, en gestation, comme je le dis, parce que j'ai l'impression d'avoir vécu une deuxième naissance, finalement, en étant dans cet endroit.
Il n'y a pas un côté où, à un moment, vous tournez un peu en rond, où vous avez envie de sortir, justement, et de voir du vert plutôt que de la mer?
Oui, donc c'est pour ça, d'ailleurs, que j'en sors régulièrement, finalement, puisque le sémaphore se trouve sur l'île, et non loin se trouve l'Empole, le village, et puis tous ces petits hameaux avec les gens qui vivent là, à l'année. Donc évidemment, j'en sors, je prends mon vélo, et je vais tourner autour de cette île, je vais tourner au rythme aussi des phares, puisque cette île, c'est 5 phares aussi qui peuplent l'île, avec tous ces faisceaux qui viennent aussi nous percuter finalement.
Vous avez le phare du Créache, qui est votre voisin, et vous dites de lui qu'il a une présence écrasante.
C'est très émouvant, ça, effectivement, d'être en présence de cette lumière qui est très impressionnante finalement, puisque c'est un peu des yeux de hibou comme ça qui se réveillent dès que la nuit tombe. Donc ça réveille à la vie aussi. C'est ça surtout, je pense, l'expérience la plus forte en étant à Ouessant, c'est ce contact dont on est un petit peu coupé aussi dans nos grandes métropoles, de ce contact avec la nature. Là, on voit plus que jamais les nuages nous passer au-dessus de la tête. On voit, on est réveillé à la vie finalement sur cette île.
Sauf que vous dites aussi que finalement vous arrivez sur place, donc c'est en 2015, on le rappelle, en femme du continent. Et ça, comment on arrive justement à s'intégrer dans cette île très particulière, avec ses caractères durcis par le vent justement et les tempêtes? Comment est-ce que, alors même si vous avez des origines bretonnes et finistériennes vous-même, comment est-ce qu'on arrive à vivre 3 mois comme ça avec la population locale?
Oui, tout à fait, c'est ça, j'arrive en mouligaine, ce terme.
Mouligaine.
Mouligaine, ce mot breton pour dire, femme étrangère, femme de l'extérieur. Ben, je pense qu'il faut, comme toujours finalement, prendre le temps, être dans la sincérité du moment, savoir poser tranquillement son sac aussi, écouter, être à l'écoute. Et ça, j'ai acquis ça de toutes mes années. Tout à l'heure, vous parliez de Claude Villers, effectivement. Mmh. J'ai appris ça au cours de mes reportages, d'avoir le temps et de pouvoir saisir justement ces paroles, aller au-delà aussi des mots entendus. Donc je pense qu'on est dans une vraie compréhension, une vraie sincérité. Et je pense que les Ouessantins, les Ouessantines m'ont senti. J'étais pas là non plus pour prendre quelque chose, j'étais pas là en conquérante, mais vraiment dans un échange. Et je pense que eux-mêmes ont senti finalement le rôle que j'allais jouer pendant tous ces mois, et bon, ce livre en témoigne. Mmh. Je pense que j'ai aussi saisi une mémoire d'une île qui était en changement, sur une bascule aussi, à l'image de toute façon de l'Europe tout entière, du monde tout entier. On est rentré dans une accélération du temps. Moi, j'ai pris le temps de capter aussi des traditions, la fin d'une époque. Et je pense que, d'ailleurs, je suis allée faire une lecture il y a une dizaine de jours à Ouessant. Et ils m'ont remercié. C'était vraiment pour moi très important, ça, de comprendre aussi qu'ils avaient totalement saisi ce que je souhaitais aussi à ce moment-là.
Et justement, pourquoi Ouessant? C'est parce que c'est ce que vous venez de dire. Ça symbolise quelque chose de particulier ou il y a encore quelque chose de plus?
Ouessant donc fait partie en mer d'Iroise, fait partie de toutes ces îles du Ponant qui s'égrènent comme ça le long du littoral breton. C'est une île à part. Pourquoi? Parce qu'elle est la plus lointaine, donc il faut déjà y arriver. C'est plus de 3 heures de navigation depuis Brest. C'est une île qui a su garder des traditions plus longtemps, peut-être plus préservées que d'autres. Parce que je dis que les Ouessantines sont un peu les marquisiennes du Ponant. Donc,
c'est l'île aux femmes.
L'île aux femmes,
avant tout.
Oui, puisque les hommes sont partis longtemps. D'abord pour la Royale, donc les hommes quittaient, partaient justement sur les océans pour les guerres, quoi. Et d'autres partaient pour le commerce. Donc les femmes tenaient l'île, c'est effectivement ça. Cette île était tenue par les femmes. Ouais. Et elle continue d'avoir une influence toujours forte.
Et même la jeune génération, vous retrouvez ça aussi chez les plus jeunes?
Les jeunes ont acquis, elles sont héritières de leurs grands-parents, de leurs grands-mères, de leurs mères. Je pense qu'il y a des choses qui se transmettent et elles ont encore ce beau tempérament comme ça. Il faut tenir tête à l'île, il faut tenir tête aussi aux éléments. Ouais. Donc c'est tout ça qui forge aussi un caractère.
Le vent, la mer, le noir, la mort, tout ça c'est des éléments qui font l'île d'Ouessant aussi.
Oui, qui font l'île, absolument. C'est sûr que lorsqu'on discute, lorsqu'on prend le temps avec les habitants, très vite on comprend qu'ils ont tous et toutes eu un père, un cousin, un frère disparu, emporté par la mer. La mer est prédatrice, donc on rigole pas avec ces éléments-là.
Est-ce que ça a été dur de passer 3 mois là-bas? Ou vous diriez pas ce mot, ça n'est pas que ça?
Non, c'est une confrontation aussi avec soi-même, c'est faire un point aussi sur son parcours. Je dirais que c'est une chance, c'est un grand luxe en fin de compte de pouvoir, en tant qu'auteur, avoir ces 3 mois de résidence. C'est une grande chance de se l'accorder aussi.
Il y a une pression immobilière importante aussi aujourd'hui sur des gens du continent qui ont de l'argent et qui achètent des maisons là-bas sur l'île.
Voilà, donc tout est en train de changer. Je pense que ce qui se voit sur Ouessant, c'est aussi ce qui se voit sur le littoral breton et peut-être sur d'autres littoraux. On sait, peut-être que vous en parlez dans votre émission, Mathieu, que on a tendance à regarder beaucoup plus vers les territoires du Nord. Donc il y a une pression immobilière à Ouessant comme en Bretagne. À Ouessant, il y a encore 2 ans pratiquement, il y avait 15 maisons à vendre, et là en l'espace d'un an et demi, il y en a plus. Donc ces maisons maintenant acquises par des résidences secondaires, en effet plus de la moitié des îles sur Ouessant, des maisons sur Ouessant appartiennent aux résidences secondaires.
En tout cas, c'est une formidable expérience et un récit extraordinaire. On a tous envie de passer 3 mois dans ce sémaphore d'Ouessant. Et vous signerez d'ailleurs votre livre à Clermont-Ferrand le 17 novembre au 20e rendez-vous du carnet de voyage, et puis le 21 21 novembre, il y aura une soirée littéraire et apéritive à la librairie La Plume Vagabonde, rue de l'Ancrie à Paris, dans le 10e. Et ce livre paraît donc au Mot et le Reste, c'est l'éditeur. Hein, ça s'appelle Tu m'avais dit où est-ce. Merci Gwenaëlle Labolivier, très heureux de vous avoir croisé aujourd'hui au micro de France Inter.
Merci Mathieu, avec grand plaisir.